À voix nue. Cette semaine, France Culture rend hommage à Jean Starobinski, récemment disparu. Le théoricien de la littérature s'entretenait en 1999 avec Gérard Massé. Ce soir, quatrième entretien.
Nous avons rappelé dans les entretiens précédents, Jean Starobinski, que votre père était médecin, que vous-même, vous avez fait des études de médecine, que votre épouse, je crois, est ophtalmologue. Et je me demande s'il n'y a pas, entre la critique et la clinique, beaucoup de points communs. D'abord parce que les mots se ressemblent, mais ça c'est parfaitement superficiel. Il y a autre chose, c'est que d'abord, ce qui me frappe dans vos écrits, c'est la bonne distance par rapport à votre objet. Et d'autre part, le fait que vous n'êtes pas un médecin cultivé qui par ailleurs écrit des livres. Ce que vous évitez d'abord, c'est naturellement l'explication du génie des hommes illustres par leur maladie. Cela consiste à expliquer Baudelaire par la syphilis, Chopin par la tuberculose, Gréco par l'astigmatisme. C'est un exemple que vous donnez vous-même dans un de vos livres. Et vous ajoutez là, très justement, mais alors pourquoi tous les malades n'auraient-ils pas du génie? Donc l'explication est ailleurs. C'est-à-dire que vous évitez un premier péché, mais ce n'est pas encore un grand mérite, c'est celui de faire des diagnostics sur des corps absents ou de la nosographie comme ça à travers les siècles. Bien. C'est donc autre chose qui vous occupe. Et si je parle de critique et de clinique à la fois, c'est parce que il y a l'exigence d'une objectivité, d'une distance, mais pas non plus d'un trop grand éloignement. Or, vous avez un siècle de prédilection, c'est le 18e, chacun le sait, vous y êtes revenu beaucoup, et je me demande si ça n'est pas parce que du 18e siècle nous pouvons, sinon tout savoir, du moins savoir énormément de choses. Nous avons des témoignages historiques, nous avons des livres, nous pouvons presque reconstituer le cheminement des diverses pensées à travers le siècle. Et donc vous savez presque tout du XVIIIe siècle. Ce sont nos valeurs, nos combats, tout ce qui nous agite encore aujourd'hui qui est en train de naître. Et en même temps, nous avons un recul suffisant. Est-ce qu'il y a là dans la distance temporelle quelque chose qui amenait presque forcément le XVIIIe siècle dans votre perspective?
En effet, le XVIIIe siècle est assez différent et en même temps assez proche pour qu'il y ait un certain confort à l'examiner. Pas trop de matière à débat, pas trop de matière sur lesquelles il y aurait dispute, comme sur l'histoire contemporaine. D'autre part, ce sont nos valeurs et notre destinée qui se jouent là. L'idée de progrès, par exemple, qui est si importante et qui se forge au XVIIIe siècle, et aussi la rigueur d'une philosophie de la causalité. La notion même de l'universel, de la raison, tout cela est porté par le XVIIIe siècle et un acquis du XVIIIe siècle. Et puis il y a des personnes qui se manifestent et sur lesquelles on peut savoir davantage que sur des personnages plus lointains. Certes, je crois que mon intérêt, qui a commencé par Montesquieu, s'est continué par Rousseau, tenait précisément à cette philosophie rationnelle, pour dire les choses très simples, dont ils ont été les exposants, qu'ils ont tenu à exposer, et qui est fondatrice pour l'idéal d'égalité qui a progressé au XIXe siècle. Égalité et progrès et dignité humaine. Je crois que ça a été quelque chose de très important et à quoi il faut rester absolument attaché. D'autre part, vous évoquez clinique et critique.
Oui, c'est en même temps l'époque où la médecine au sens moderne se constitue.
Il y a une convergence qui à la fois élit ce siècle pour l'importance de ses idées et d'autre part fait que il se situe à la bonne distance pour l'observateur que je suis, que beaucoup de mes amis sont, par rapport au débat du monde contemporain, suffisamment rattaché à ces débats, mais distinct de ceux-ci, au point que il y a une possibilité de l'ausculter, de l'examiner dans ses avenues, dans son art, dans ses perplexités, d'y trouver des précurseurs, mais aussi des êtres suffisamment différents pour qu'on construise un monde qui serait le leur et non plus du tout le nôtre. Donc le respect d'une altérité se combinerait dans le XVIIIe siècle avec le souci d'une ressemblance, d'un héritage dont nous avons à prendre soin.
Oui, mais puisque vous parlez d'altérité, il est remarquable aussi que vous ne soyez pas allé du côté de l'ethnographie, par exemple, ce qui serait justifié par rapport au XVIIIe siècle, où le monde est enfin connu dans sa globalité, et où l'altérité, alors, est parfois très grande. Bon. Vous êtes resté dans une sorte de distance moyenne. Vous n'êtes pas allé très loin. Pourquoi ?
Peut-être pour des raisons qui tiennent à mon esprit, ma nature, mon caractère, et qui tiennent aux circonstances. Dans les ambitions juvéniles que j'ai évoquées, dont j'avais évoqué l'aspect étude des catabases, étude des descentes aux enfers, des mythologies les plus diverses, j'étais parti dans des horizons qui auraient pu se situer bien au-delà de la culture européenne. Il se trouve que la Suisse et la Suisse romande ont été pendant des années cruciales un peu coincées au centre d'une Europe qu'il n'était pas possible de parcourir. Le départ vers d'autres horizons n'était pas possible. Il y a de beaux musées ethnographiques en Suisse, à Bâle notamment,
à Neuchâtel aussi.
Il y a des Suisses qui sont partis vers les lointains. Et le fait d'appartenir à un petit pays, justement, par contraste et contradiction, par l'une de ces antithèses que j'aime bien, est un appel du lointain. Ceci dit, quand un autre de mes thèmes m'a hanté pendant quelques mois, et avec bientôt la conscience que ça n'allait pas être réalisable, j'avais eu l'ambition de traiter rien de moins que le masque dans sa généralité. Oui. Le masque. Et finalement, je me suis rabattu sur les dénonciateurs des masques de la tradition moraliste européenne. Pourquoi ? Parce que si j'y incluais les masques des rituels lointains de l'ethnographie, il fallait une documentation des voyages, une approche dont je n'étais pas capable. Il fallait déserter les études de médecine pour des études sérieuses et précises et matérielles d'ethnographie, et je ne pouvais alors travailler que de seconde main. Or, pour ce qui est de Montaigne, de Montesquieu, de Rousseau, il y a des manuscrits de Rousseau à Genève, les textes des originaux de Montesquieu, l'original de l'Esprit des lois, certes il y a des manuscrits qui les précèdent, est publié à Genève. Autrement dit, le goût que j'ai de toucher aux documents et de remonter à la source elle-même sans recourir à un intermédiaire a fait que mon horizon s'est forcément limité. L'ethnographie m'aurait lancé sur les routes du monde et je suis resté sédentaire. Du coup, c'est l'ethnographie des auteurs du XVIIIe siècle qui m'a intéressé. Ce sont les notes du discours de l'inégalité qui font l'apologie des voyages et de la comparaison des peuples entre eux que j'ai soulignées, mais je n'ai pas réalisé ce programme.
Oui, je ne voulais pas dire que vous auriez pu ou dû devenir ethnographe, naturellement, mais que dans le choix de vos lectures même, il y a une sorte de proximité par rapport à nous, à notre culture, qui me semble assez évidente. Bon, vous ne vous éloignez jamais trop. Ce n'est naturellement pas un reproche. Et il y a dans votre attitude, c'est pourquoi je parlais de critique et de clinique à la fois, comme une neutralité vigilante et qui pourrait venir aussi alors d'une position géographique.
Oui. Il m'est arrivé d'écrire que on est un peu au balcon en Suisse romande. On est spectateur de ce qui se passe alentour. C'était vrai de la Suisse romande du 19e siècle, seule appartenant à la seule démocratie européenne au moment où, aux environs de la Suisse, il n'y avait que des monarchies. Vers 1840, c'était le cas, même après 1848, d'où la présence des 48 arts en Suisse. Ils étaient bien nombreux à venir d'Allemagne ou de France en Suisse, comme ensuite les communards sont venus à Courbet, est venu à Montreux ou Vevey, peindre le château de Chillon, mais surtout se mettre à l'abri de ce qu'ils menaçaient à Paris. Donc, la position helvétique est une position de regard surplombant, avec, pour ce qui me concerne, une restriction du champ dans la tradition gréco-latine. Je connais même moins bien la tradition hébraïque et biblique, ne maîtrisant pas moi-même l'hébreu. Donc pour la tradition européenne elle-même, mon champ se restreint quelque peu. Ce sont les accidents de la vie qui...
Accidents de la vie, moi j'y vois, si vous permettez, autre chose aussi. C'est que vous n'avez pas eu l'illusion, contrairement à beaucoup, qu'en allant très loin dans l'espace ou dans le temps, on trouverait une vérité plus fondamentale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chez vous l'espoir que, par exemple, dans la transe ou dans tel rite inconnu ou dans telle conservation de formes sociales ou de croyances très anciennes, qu'il y aurait là de quoi, par exemple, nous régénérer ou de quoi nous apporter, vous voyez, un aliment plus authentique qu'un autre. Et il me semble que dans tout le XXe siècle, il y a eu cela dans l'horizon intellectuel et mental. Et vous y avez échappé, non ?
Oui. Qu'est-ce qui m'en a prévenu ? Je crois que, ayant rencontré à Baltimore Lovejoy, historien du primitivisme, la perspective historique sur les nostalgies du primitif, qui commence dès le XVIIIe siècle, s'est présenté à moi dans les ouvrages de Lovejoy, dans la grande anthologie sur les images primitivistes de l'Antiquité classique. Et j'ai assez vite situé les intérêts du XXe siècle pour la transe et les expériences primitives dans la continuité d'une histoire dont c'était finalement non pas l'aboutissement révélateur, mais simplement une des métamorphoses du primitivisme. Donc j'ai relativisé l'intérêt du XXe siècle pour le primitif.
Oui, c'est ce que je voulais vous faire
dire. En le resituant dans l'histoire intellectuelle de l'Europe.
Oui, parce qu'il me semble que c'est une des caractéristiques fondamentales de ce que vous avez écrit, de ce que vous avez exploré. Je veux essayer de comprendre un peu plus avec vous d'où cela vient, c'est que peut-être qu'il faut alors faire référence à votre livre « Trois fureurs ». Parce que Dieu sait si ça n'est pas pour vous mettre à l'abri que vous n'examinez pas justement la transe ou la possession ou le surnaturel. Ce sont des catégories dont vous savez qu'elles existent naturellement, vous y êtes sensible, vous cherchez même à les comprendre. Et dans le texte qui est au début de Trois Fureurs, le texte sur Ajax, n'est-ce pas, et Sophocle, vous dites ceci, et je me permets de le citer parce que ça me paraît très important. « L'homme ne cesse pas d'avoir affaire à plus fort que lui, mais ce plus fort est désormais l'ensemble des énergies qui le meuvent, qui le constituent et qui le dépossèdent de la faculté de répondre en son nom propre. » Et vous ajoutez ceci, plus important encore, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un jugement. Si les psychothérapies classiques, psychanalyse incluse, visent à la récupération de ce nom propre, il ne manque pas aujourd'hui d'extrémistes, vous les nommerez éventuellement si l'envie vous en vient, il ne manque pas aujourd'hui d'extrémistes pour qui cette ambition paraît dérisoire et répressive. Il propose à la place un polythéisme des pulsions. Et c'est là qu'on sent le jugement de votre part, qui ne laisse plus personne en scène pour soutenir un affrontement et une responsabilité. Nous voici à l'exact opposé de la dramaturgie antique, où le héros, eût-il été le jouet d'une force supérieure, ne peut se dispenser de payer pour les actes accomplis. C'est-à-dire que vous vous opposez, là, très très nettement, hein, à ce lâcher-tout, à cette... permissivité ou à cet abandon aux pulsions dont on a entendu si souvent l'éloge.
En effet, j'écrivais ces lignes déjà au moment où une sorte de néo-nietzschéisme, on peut prendre tout ce qu'on veut d'ailleurs chez Nietzsche,
y compris ce qu'il n'y est pas.
Exactement, c'est un grand réservoir d'arguments. Et c'est bien difficile de faire une synthèse de la pensée de Nietzsche, qui est une pensée extraordinairement inquiète. Si Ajax, dans la nuit de sa folie, a été puni par Athéna qui lui trouble l'esprit, il a battu les troupeaux, les bergers, et il se trouve couvert de honte car il ne s'est pas conduit en guerrier conformément au code d'honneur qu'il aurait dû respecter. Il est ridicule à ses propres yeux et couvert de sang. Ce n'est pas le massacre qui est honteux, c'est le fait de n'avoir pas respecter la morale féodale, en quelque sorte, la morale chevaleresque qu'il aurait dû respecter. À ce moment-là, il ne lui reste plus qu'à mourir. Le suicide est la seule façon pour lui de sauver son honneur. Mais pendant la nuit, la déesse s'était emparée de son esprit. Donc il y avait eu dépossession du héros par la volonté d'une divinité. Et cette dépossession qui aboutit au massacre, c'est, disons, le prototype de ces conduites d'instinct ou d'impulsion ou de désir au pluriel, les désirs pluralisés qui ne demanderaient qu'à se déchaîner, alors que, selon certaines théories qui s'étaient répandues et qui s'étaient vulgarisées, je pensais aux versions vulgarisées de ces théories, le moi est une illusion. On trouve ça chez Nietzsche et chez des gens qui répercutent Nietzsche. Le moi est une illusion, le je est une illusion grammaticale. En fait, si l'on revient une seconde à Nietzsche, faisons là peut-être une petite parenthèse. Vous trouveriez chez Nietzsche dans Humain trop humain, si je ne fais erreur, non seulement une apologie du progrès, mais une exaltation du nous collectif, mais sans que ce soit le nous du peuple fanatisé. Que dit Nietzsche? Dans cette remarque, la raison des Lumières était trop courte, trop faible, trop fragile. Il a fallu une réaction contre cette raison des Lumières. Ça a été celle de Schopenhauer qui a remis en honneur un certain nombre d'idées du métaphysique et de l'Orient. Nietzsche pense au bouddhisme de Schopenhauer et du christianisme médiéval. Cette réaction, elle a eu lieu, elle était nécessaire, Et elle sera utile, pourquoi ? Parce que nous pourrons reprendre le drapeau des Lumières et le brandir très haut, et Nietzsche de citer Erasme, Voltaire, et je crois même Pétrarque. Donc les grands noms de l'humanisme que les Nietzschéens d'aujourd'hui honnissent. Et nous aurons fait d'une réaction, celle de Schopenhauer, un progrès. Donc on peut trouver chez Nietzsche tout autre chose que cette critique très vive du sujet grammatical et du moi responsable.
Et dans le passage que je citais, il y a une lecture de la tragédie antique, bien entendu, de l'épisode que vous avez rappelé. Il y a tout ce qui tourne autour de Nietzsche et que vous venez de dire. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi l'allusion plus précise à un mouvement plus directement contemporain, c'est-à-dire d'après mai 68, de libération anarchique et désordonnée de l'expression du moi. Est-ce que ça n'est pas pour rappeler qu'il y a au contraire la nécessité d'une responsabilité? Et même vous dites qu'on ne peut se dispenser de payer pour les actes accomplis. Est-ce qu'il n'y a pas là, dans l'exemple d'Ajax, quelque chose qui vaut pour nous aujourd'hui ?
En effet, l'un des mots d'ordre est « jouissez sans restriction »,
voilà.
Quelles en sont les conséquences pour ce qui nous tient à cœur aussi, les droits de l'homme ? Car si la jouissance sans restriction implique la négation de l'autre, l'utilisation de l'autre comme objet, où sont les droits de l'homme ? Alors nous vivons dans une curieuse société où d'une part le « jouissez sans restriction » aboutit à des conduites qu'on justifie dans leur irresponsabilité même, et d'un autre côté on multipliera les procès pour violence sexuelle, on protégera la personne. Alors, entre les deux, il y a peut-être un petit chemin conciliateur, mais il faut alors en poser les conditions, les termes, et faire qu'un maximum de jouissance se restreigne de façon que la part de l'autre ne soit pas méconnue. Mais un égocentrisme effréné commande la jouissance sans restriction, une formalisation des droits de l'autre apparaît dans les revendications juridiques qu'on a raison de poser, de formuler, mais qui peuvent elles aussi à leur tour devenir excessives par des imputations de responsabilité qui sont insaisissables philosophiquement.
Oui, toujours dans Trois Fureurs, d'ailleurs à un autre moment, vous êtes encore plus net si c'est possible, parce que vous dites « la tauromachie sans règles et sans gloire, la fiesta chaotique où s'ébroue le héros dément, est l'image de la dégradation où sombre inéluctablement la force, lorsque celle-ci s'affranchit de tous les liens sociaux, c'est-à-dire de toutes les règles répressives qui définissent l'humanité de l'homme ». Vous mettez « répressive » entre guillemets, d'ailleurs, sans doute pour l'atténuer. Mais enfin, le mot y est, « toutes les règles répressives qui définissent l'humanité de l'homme ». Il y a là quelque chose de particulièrement important.
Freud le dit lui-même, il faut une certaine dose de refoulement pour constituer la personnalité humaine. Il y a un refoulement pathologique, mais il y a un refoulement constructif. C'est peut-être cela même que certains en viennent à critiquer chez Freud, mais ce n'est certainement pas ce que je critiquerai chez Freud. Ce que j'écrivais à propos d'Ajax concernait l'univers de la tragédie grecque, où très évidemment la violence sans règles, c'est quelque chose qui s'oppose radicalement à cette règle de la discussion qui est la règle de la cité, si bien analysée par Vernon. C'est alors que l'isonomie, la pesée des droits, l'équilibre recherché entre les opinions, les partis, tout cela matière à débat véhément, écarte momentanément la violence, ne l'exclut d'ailleurs pas par rapport aux autres cités, mais vise à établir une entente civique qui est tout entière le fruit du débat civique, lequel refoule la vengeance facile, les meurtres, les vendettas que l'État doit, autant que faire se peut, que la société organisée doit autant que faire se peut écarter d'elle.
Au fond, vous êtes un moraliste.
Oui, mais bien sûr. Mais bien sûr, je crois que l'homme ne naît pas bon, qu'il est violent et qu'il doit se construire tel qu'il puisse coexister avec les autres.
L'homme ne naît pas bon, c'est, vous prenez le contre-pied de Rousseau. Mais je vous ai entendu dire, une fois dans des entretiens filmés que j'espère tout le monde pourra avoir un jour, que Rousseau était d'abord votre patient, le terme mérite d'être noté, et que d'autre part vous n'étiez pas rousseauiste.
Il s'agit de reconstruire le système de Rousseau et d'autre part de le suivre dans son itinéraire. Son itinéraire personnel est entièrement dominé par l'idée que les autres ne le comprennent pas et pis que cela, que les autres lui en veulent et veulent sa destruction.
Pardon de vous interrompre, est-ce que ce n'est pas le premier, de ce point de vue, qui ait fait de son mal propre un système pour guérir ?
Alors la proposition de guérison, elle est dans les mille, et l'intérêt de Rousseau, c'est qu'il propose des guérisons. Il propose des guérisons où il a des voies de salut, lesquelles ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agit de lui ou des autres. Lorsqu'il s'agit de la société, et il ne l'oublie pas, il pose le postulat d'une humanité primitive qui ignorait la propriété et qui était innocente sinon vertueuse. Donc c'est cela son idée de l'homme bon. Le travail technique et la propriété ont été source de conflits, d'inégalités, de misère. Il faut dès lors chercher le remède dans le mal. C'est une idée très importante chez Rousseau, non pas revenir en arrière, mais perfectionner la société, perfectionner la civilisation, développer la technique jusqu'à un certain point pour que l'inégalité entre les hommes, la misère opposée à l'immense richesse, disparaisse et que une forme de vie collective soit possible. Les petits États peuvent peut-être réaliser ça, les grands États, ça sera plus difficile. Donc il y a des propositions de non seulement de perfectionnement des sciences et des arts, qu'il attaque dans un premier temps, mais il veut les perfectionner, mais aussi de vertu civique, dont il se dit lui-même incapable, parce qu'il est trop faible. Alors, pour lui-même, la solution sera la solitude. Mais il déclare qu'il est une exception et il ne veut pas servir d'exemple. Le fait est que ses lecteurs ont été tellement séduits par les rêveries ou par les confessions qu'il a servi d'exemple. En réalité, ce qu'il prône, c'est une socialisation qui, même à certains moments, prend un aspect de contrainte, qui a même fait parler de totalitarisme démocratique à son propos.
Vous retrouverez le cinquième et dernier entretien entre Gérard Massé et Jean Starobinski en 1999 sur le site franceculture.fr. À voix nue, réalisation Bruno Sourcy, coordination Claire Poinsignon.